Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, l'antenne est à l'église protestante unie de Dreux-Marsosseux. Autour de la table, le pasteur David Gonzalez.
Bonjour.
Catherine Bianchi.
Bonjour à tous.
Boris.
Bonjour.
Et Roger Bianchi. Aujourd'hui, on a intitulé l'émission « Être touché par Jésus ». Touché, on peut expliquer comment peut-on être touché. Et donc, il y a trois lectures. Une lecture dans le Lévitique, une lecture dans l'épître de Paul aux Corinthiens et une lecture dans l'évangile de Marc. Alors, Lévitique.
Au chapitre 13, les versets 1 et 2 et 45 à 46, c'est sur la lèpre de l'homme. C'est une loi ancienne du Lévitique. Le Seigneur adressa la parole à Moïse et à Aaron. S'il se forme sur la peau d'un homme une boursouflure, une dartre ou une tache luisante, et que cela devienne une maladie de peau du genre lèpre, on l'amène au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Et je saute à la conclusion du chapitre. Le lépreux, ainsi malade, doit avoir ses vêtements déchirés, ses cheveux défaits, sa moustache recouverte. Et il doit crier « Impur, impur !» Il est impur aussi longtemps que le mal qui l'a frappé est impur. Il habite à part et établit sa demeure hors du camp.
Voilà. Ensuite, dans l'épître de Paul aux Corinthiens,
au chapitre 10, les versets 31 à 33 et le verset 1, chapitre 11. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.
Et enfin, là on va peut-être discuter ensemble, dans l'évangile de Marc, que va nous lire Catherine.
Au chapitre 1, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui, et se mettant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts.
Alors, effectivement, merci. Il y a trois choses. Hein. Je pense qu'il y a d'une part la définition qui est là très résumée, mais qui est très complète dans le livre du Lévitique sur ce qu'est la lèpre, les conséquences, tout ce qui s'articule. On le retrouve ça effectivement dans le chapitre 13. Et ensuite, il y a l'aspect impur. Je pense que dans l'aspect impur, moi j'insisterai surtout de dire impur, c'est plus séparé, isolé, comme le sont certaines personnes dans notre société, parce que ces textes-là, on peut très bien, presque, pratiquement, le mettre aujourd'hui. Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est mis l'accent sur « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et ensuite, « Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. » Voilà. Avant d'attaquer l'évangile de Marc, on va essayer de donner quelques avis sur les deux premières lectures.
Alors sur le Lévitique, vous disiez à l'instant qu'on peut le mettre aujourd'hui. Alors, je ne le recommanderais pas quand même, hein, parce que si on regarde bien dans tout le Lévitique, il y aura des petits soucis. Hein. Cette loi du Lévitique, elle a au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Quand on cherche à faire des comparaisons, on la compare avec le code d'Hammurabi, qui est la loi encore plus ancienne des pays voisins. Et en les comparant, on peut d'ailleurs voir ce qu'elle avait d'intéressant, la loi du Lévitique. Et au cas où vous n'auriez pas l'occasion d'aller comparer les 10 commandements avec le code d'Hammurabi au Louvre, Je vous dis tout de suite le résultat, c'est que on voit bien que les lois du Lévitique sont beaucoup plus douces, beaucoup moins brutales et violentes. Cela dit, elles restent quand même assez brutales et violentes, hein, plusieurs fois. Et notamment sur le passage qu'on vient de lire, je pense que ce que vous vouliez dire, c'est qu'habituellement, dans l'interprétation chrétienne, c'est le fait qu'on excluait de la vie sociale les lépreux, qui est à actualiser aujourd'hui, dans le sens de ne pas reproduire des ségrégations sociales qui aujourd'hui sont nettement dépassées dans notre culture. Et là, je suis bien d'accord. Mais ce qu'il faut voir aussi dans le texte, c'est que, bon, il y a la description, dans la version en français courant que j'ai lue, il y a la description des symptômes, hein, boursouflure, dartre, taches luisantes. C'est des maladies contagieuses, les maladies de peau du style lèpre. Jusqu'à ce qu'on invente d'ailleurs les bons médicaments, par exemple à Marseille, dans la rade de Marseille, juste en face du vieux port, il y a l'île du Frioul, à 3 heures de nage. C'est là qu'on mettait en quarantaine tous les lépreux de tous les temps. Ben, sinon, c'était d'une épidémie de lèpre, quoi. Donc, ce qu'elle a de plus simple à comprendre, cette loi, c'est que c'est une loi de mise en quarantaine. Tout comme aujourd'hui, en Angleterre, on met en quarantaine les animaux qui voudraient entrer avec une maladie. Tout comme face à des problèmes d'épidémiologie, comme Ebola, par exemple, on passe par des mises en quarantaine pour éviter que l'épidémie se répande. Et puis, ça avait comme conséquence malheureuse, dans les siècles passés, bah, de condamner ceux qui avaient ce type de maladie contagieuse de peau ou d'autres, hein, à être exclus de la société à vie parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Et puis là, il y a un détail sordide qu'on a lu à la fin, 45-46. Le lépreux devait crier partout « impur, impur ». C'est-à-dire, il devait signaler qu'il arrivait. Comme ça, les autres se poussaient, ils ne risquaient pas d'être contagieux.
Oui.
Et ça rappelle tous les signes de stigmatisation que l'humain a inventés et qui sont odieux, quoi. Voilà.
Oui,
au Moyen-Âge, ils agitaient la crécelle pour signaler qu'ils étaient lépreux.
Parce que si je mets...
C'était pareil. Ouais,
oui, bien sûr. Mais si j'ai dit qu'on pouvait le mettre en parallèle aujourd'hui, c'est parce que quand je vois impur, effectivement, on pense à exclusion. Et dans notre société, il y a des exclusions. Et là, on s'en méfie.
Il faudrait demander qui sont les impurs d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai bien deux, trois idées là-dessus, dans les représentations collectives.
Moi, je dis, je mets un parallèle entre... C'est ça, c'est un parallèle entre impur...
On est toujours l'impur d'un autre, hein, de toute façon.
Hein?
On est toujours dans cette pensée qui exclut l'autre en l'étiquetant. On est toujours l'impur de quelqu'un. Et on a toujours tendance à considérer qu'un autre... J'allais choisir une catégorie dans la société qu'on met à part, on ne veut pas les voir. Les chômeurs.
C'est...
On ne veut pas les voir dans la rue. Voilà. Les gens trop mal payés.
Quels sont les gens de la société actuelle?
Oui, non, mais attendez, impur, là, ça s'adresse quand même à la maladie.
Et voilà.
Ce n'est pas l'âme, là. Hein.
Avant de spiritualiser
autant,
les choses...
Mais je suis bien d'accord. Je dis bien, je fais un parallèle. Je ne dis pas qu'effectivement, il y a encore... quelques léproseries, il y en avait une dans le Gard, c'est ça qu'on veut dire, il y avait des lépreux, maintenant il n'y en a plus, mais il y a toujours des exclus.
Voilà. Tant qu'on en est là, tu évoquais les léproseries, je pense qu'on peut partager avec les auditeurs l'existence de la fondation Raoul Follereau, qui s'occupe, je crois, des enfants lépreux du tiers-monde, parce que les médicaments existent, et donc c'est plus qu'une question de moyens. Je pense qu'en faisant sur votre moteur de recherche Raoul Follereau, vous trouverez cette belle fondation. C'est vrai qu'il y a encore des pays où c'est pas soigné, ça crée encore de l'exclusion. Et c'est ce qu'on verra dans l'Évangile d'ailleurs. Ce qui a surpris aussi les contemporains de Jésus, c'est qu'il aille vers eux, les lépreux.
Bien sûr.
Parce que d'un point de vue sanitaire, c'était dangereux. D'un point de vue social, c'était transgressif.
Exactement.
Et puis, il risquait de mourir, quoi, d'attraper cette maladie. Et c'est là où on sent tout le réalisme de cette scène, si on veut. On aura une pause musicale à faire et alors on va vous passer Royals de The Lord. Si vous êtes dans votre voiture, attendez encore 10 secondes, ça va être bien. Et juste, Boris, tu peux nous redire en gros le sens des paroles de Royals de The Lord.
The Lord, en fait, elle démonte le fantasme qui est représenté donc, dans les musiques à caractère très capitaliste et tout, en montrant que la jeunesse, finalement, elle a un recul face à ça. Malgré que l'on croit que la tête des jeunes est pleine d'idées capitalistes, des envies
superficielles
et tout, finalement, je veux dire, le matin, on se lève, on prend notre bus, on va en cours. C'est simple, quoi. Donc, c'est de ça qu'elle parle, en fait. I've never seen a diamond in the flesh.
cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Maintenant, on peut s'intéresser au passage de l'Épître aux Corinthiens. Là-dedans, il y a deux choses. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas. Et soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. On va s'arrêter un tout petit peu sur ces deux thèmes.
Alors évidemment, en résumant, en synthétisant, et on est obligé de résumer, de synthétiser, ben on simplifie. Vous avez donc simplifié, et c'est normal. Je serais même intéressé d'en réentendre un peu la simplification. Alors, il faut faire attention aux autres.
Tout ce que vous faites, faites-le à la gloire de Dieu. Y compris la manger, y compris le boire.
Ça nous donne déjà une première indication sur la foi chrétienne ou le christianisme du Nouveau Testament de Paul. C'est quelque chose du quotidien. C'est pas quelque chose qui se passe que le dimanche matin, mais tous les jours. En fait, c'est ça que ça dit, c'est pour ça que je le souligne. Vous savez que la devise des jésuites, c'est de tout faire pour que grandisse la gloire de Dieu. Et donc, ils font de la théologie, ils font médecine, ils font tout ce qu'ils font pour que la gloire de Dieu soit, en quelque sorte, agrandie, mieux connue parmi les hommes. Et c'est noble. La devise de la réforme, c'est à Dieu seul la gloire. C'est encore autre chose. C'est d'ailleurs à l'opposé. On ne dit pas qu'on va faire grandir la gloire de Dieu parce qu'il n'y a que lui qui est vraiment glorieux. Moi, je souscris d'ailleurs beaucoup à ça. Si on veut avoir une idée de ce qu'est la vraie gloire, regardons l'univers et ça remettra les choses à leur échelle. Ou regardons la création, l'infiniment petit, et on verra ce que peut être un être glorieux qui est capable de ce genre. Ça remet pour moi, voilà. Et donc, l'univers et le créateur, pour moi, c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus étincelant, de plus incroyable, quoi. Et là, ce que dit Paul, c'est autre chose, c'est de faire tout pour la gloire de Dieu. Et en fait, c'est de bien sentir que, quoi qu'on fasse dans la vie, Dieu, ça l'intéresse, non pas pour nous fliquer, mais parce que c'est un Dieu du quotidien, quoi, du concret.
Je pense que là, il ne nous empêche pas de vivre, vivez confortablement ou autre, mais pensez à Dieu quand même. Et puis, quand même, il y a une phrase d'actualité, m'excuserez, le 32, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Respectez-vous les uns les autres. » C'est quand même un sujet d'actualité, ça.
On pourrait faire des développements nombreux. Hein,
oui, mais non, je crois qu'on peut. Mais je pense aussi qu'il y a le verset qui est entre les deux, c'est « Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-Juifs, ni pour les Juifs. » Donc, à l'époque, effectivement, on parlait que des non-Juifs et des Juifs. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus.
Voilà. Hein. On trouve chez Paul une problématique. Vivre ensemble, se tolérer, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, par faire, quelles sont les limites, est-ce que la liberté s'arrête là où commence la conscience choquée des autres, etc. La problématique qui est introduite par Paul a commencé dans l'histoire de l'Église avec est-ce qu'il fallait circoncire les chrétiens ? Parce que l'Église se dégageait du judaïsme et de la synagogue, et on voit dans Actes la décision des apôtres que non.
Monsieur.
Alors ça devait choquer les juifs, qu'il ne fallait pas être circoncire, c'est même certain. Et puis, ça choquait les nouveaux croyants qui n'étaient pas juifs qu'il faille se circoncire. Ça a commencé comme ça, la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut imposer aux uns et pas aux autres, etc. Et Paul déploiera souvent ce thème. C'est ce qu'on appelle en théologie le thème des forts et des faibles. Chez Paul, il dit ça aux Corinthiens encore ailleurs, que les plus forts soient pas une occasion de chute pour les plus faibles. Il emploie cet argument, une fois ou l'autre, pour une problématique toujours entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non-juive de l'époque. Les juifs ne mangeaient pas de tout, et les autres non-juifs mangeaient de tout. Et Paul, à un moment, sur ce point, dira à ceux qui mangeaient de tout, « Ne soyez pas une occasion de chute, c'est-à-dire de doute, de crispation. » Et cette fois-là, c'est ailleurs dans cet épître, Paul pose le problème de soumission réciproque aux sensibilités des uns et des autres dans l'Église. C'est ce qu'on retrouve là. C'est ce qu'il prône, en gros, de s'adapter les uns aux autres en évitant de choquer la conscience des autres. Pour autant, il dit de s'adapter, en gros, hein, aux uns et aux autres. Et de s'adapter librement. Pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience ? Et c'est là où, si on veut transposer, en gros, le Nouveau Testament et Paul ont une théologie morale du tact. Ils prêchent le tact. Et le tact consiste à faire en sorte que l'autre ne soit pas heurté. Donc c'est la diplomatie. C'est beau, hein, c'est noble et c'est très christianisme. Le réalisme de la République, de la liberté démocratique, sur laquelle on ne reviendra pas sinon on serait ailleurs, c'est qu'on fasse attention dans une église, très bien. Mais dans la société, on a le droit de dire à l'autre ce que l'on veut. C'est même la liberté d'expression, c'est la liberté de critique. Et c'est tout à fait normal et légitime, d'ailleurs, chez les protestants, dans l'église aussi, d'ailleurs. Mais là, on ne va pas appliquer Paul, tu vois. Et c'est là où je limitais le... Et si on devait appliquer Paul, d'après ce passage, certes, il vient de dire, dans l'Église, adaptez-vous les uns aux autres de sorte de faire preuve de tact et de ne pas vous choquer vos consciences mutuelles. Et c'est très juste. On a même parlé au sujet de la conscience spirituelle de l'autre, d'une terre sainte qu'il ne faut pas souiller. Mais par ailleurs, ils prennent aussi la liberté d'agir, de manger. Qui jugera ma conscience ? Pourquoi serait-elle jugée par un autre ? Si je prends de la nourriture en conscience, en rendant grâce à Dieu, pourquoi serais-je blâmé ? Et c'est là où il dit que vous buviez, que vous mangez, faites-le avec tact, mais librement.
Voilà.
And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them.
dance while we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs.
On a écouté Redemption Song de Bob Marley. Donc sur l'album Uprising, donc en fait c'est une musique qui parle de la rédemption. Bob Marley dit « Emancipate yourself for mental slavery »,« Émancipe-toi de l'esclavage mental »,« How long shall they kill our prophet ?»« Combien de temps vont-ils tuer nos prophètes ?» C'est une question qui se posait, lui.
C'est le parallèle entre l'esclavage, que ce soit en Jamaïque ou dans le monde noir africain, et c'est un parallèle entre être libéré de l'esclavage, comme dans l'Ancien Testament, et être libéré spirituellement. Et les prophètes dont parle Bob Marley, que tu cites, c'était les grandes consciences noires, intellectuelles et spirituelles dans l'histoire de la négritude, pour parler comme ça, qui appelaient à la dignité, à l'émancipation intellectuelle, ouais. Par le haut, quoi.
Il parlait aussi de la bombe atomique, donc il dit « N'ayez pas peur de la bombe atomique, car elle-même ne peut pas stopper le temps, en fait ».
Bien, on reprend le sujet du texte sur le lépreux.
Dans Marc ?
Oui, le récit du lépreux, on le retrouve également dans Matthieu et dans Luc, sous une forme différente, mais qui a le même sens. Mais on le retrouve dans les trois évangiles, et pourtant, Marc, c'est le premier évangile qui a été écrit. Alors, il y a quelque temps, il y a eu des manifestations, le fait que certaines personnes se promenaient avec une pancarte. Je suis Charlie. Et moi, j'aimerais bien qu'on se balade avec une pancarte. Je suis lépreux. Parce qu'effectivement, quand on essaie d'approfondir la force de ce petit bout de passage dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose d'important. Ce lépreux qui était un homme rejeté par la société, ou qui n'avait pas le droit de vivre comme les autres, qui n'avait pas le droit
de... Il était mis au banc de la société de par sa maladie.
Qui était mis au banc de la société, qui devait, non seulement ça, mais en plus de ça, crier « je suis impur », ce qui était encore... Je ne pense pas que ça se fasse dans notre pays, mais ça peut se faire dans d'autres pays. On peut peut-être obliger des gens à dire, et malheureusement, c'est peut-être arrivé. Donc, il y a ce fait-là, et puis alors, il y a le fait d'être touché par Jésus, de toucher Jésus, moi. De
vous, toucher pour Jésus. Vous, porter cette pancarte « Je suis lépreux », ça revient à dire « Je suis touché par Jésus », c'est ça ?
Voilà.
D'accord.
Je suis touché par Jésus, je veux toucher Jésus. Les deux à la fois, parce que je pense que notre foi nous entraîne à rechercher Jésus. Quand on prie, on cherche bien d'être sauvé. On cherche bien de demander, de faire une prière d'intercession pour les autres, pas pour soi-même, mais pour les autres. On a un tas d'activités comme ça intellectuelles qui font que on cherche, on veut toucher, on veut se plonger dans la Bible pour essayer de comprendre, mieux comprendre encore la signification d'un texte qui, apparemment, comme ça, quand on le lit gentiment, c'est tout simplement une bonne histoire de guérison, un miracle.
Oui, mais enfin, le lépreux, de par sa maladie, il est déclaré impur, il doit crier « impur, impur » en se promenant dans la rue. Mais le fait d'avoir été touché par Jésus, touché par la grâce, du coup, c'est l'inverse. C'est Jésus qui est mis au banc de la société, voilà. Qui devient impur.
Ah, les deux, et... les deux.
Oui, c'est comme vous le disiez, Roger, comme Catherine était en train de le formuler. Moi, je l'ai trouvé, cette idée, je vous repasse la parole, Catherine, et c'est vrai, au début... C'est le lépreux qui est tout seul, Jésus le guérit, il le touche, le lépreux s'en va, tout le monde s'en va, et c'est Jésus qui reste tout seul, oui, voilà, c'est ça.
Et il reste tout seul, et le fait que le lépreux crie qu'il a été touché par Jésus, du coup, c'est Jésus qui est obligé de s'isoler, qui se met au banc de la société pour être tranquille. Quoi,
il se tenait dehors dans les lieux déserts, hein, Jésus, suite à ça.
Voilà.
Ouais.
Le lépreux n'écoute pas la loi,
bah oui.
Et Jésus se sait, de ce fait, s'il accepte d'être touché et se fait impur, il viole aussi la loi qui est dans le Deutéronome ou qui est dans le Lévitique, mais en fait, il le fait pour sauver.
Jésus touche le lépreux pour le sauver.
Voilà. C'est surtout ça que je...
Et oui, la guérison du lépreux, sa réintégration dans la vie sociale, ce sont des signes... Du fait que Dieu lui a pardonné et que le salut lui est donné, c'est bien ça la logique du texte. Et quand vous soulignez qu'au début c'était le lépreux qui était isolé, malade et seul, et après C'est Jésus qui se retrouve seul dans les lieux déserts. Ça illustre aussi une autre vérité que Ésaïe dit comme ça. L'un a pris la place de l'autre dans sa condition. Quoi.
Ils sont tous les deux isolés quelque part. Quoi.
Sauf que lui, à la fin, on vient à lui, on vient à Jésus.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est différent. Donc il y a aussi un changement par rapport à la personne isolée. La personne qu'on fuyait et qui maintenant s'isole de son propre chef, on va dire, mais qui est approché par les autres.
Et ce chasser croisé, ces isolements croisés, c'est aussi un miroir de la situation de l'homme devant Dieu, de Dieu avec l'homme. Des rendez-vous manqués, des chassés croisés. Roger, vous disiez, l'homme cherche Dieu et ne le trouve pas toujours. Et Dieu cherche l'homme et ne le croise pas toujours, et chacun retourne quelquefois à sa solitude. Et c'est vrai qu'une émission de radio comme ça, c'est de montrer comment ces rencontres entre Dieu et l'homme se font aussi à travers l'humanité, à travers le partage d'un texte, qui annonce le pardon et la vie éternelle, classiquement.
Et c'est ça, si le...
On a un petit lancement à faire. Avant de te laisser dire au revoir, Roger, pour qu'on n'oublie pas de le faire sur la musique de fin. C'est moi qui l'ai fait. C'est We Are Family de Niles Rogers. Vous comprendrez la conclusion que j'ai faite en lien avec cette chanson.
Like